Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Au nom du Seigneur. Selon la traditionnelle salutation hébraïque, Shalom Aleichem, cette parole que Jésus a prononcée quand il s'est manifesté à ses disciples le soir de Pâques, vivant dans la chambre haute. Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit, si on retraduit en hébreu, ça nous donne Shalom Aleichem. Que la paix soit avec vous. Je veux d'abord vous remercier de m'accueillir ce matin, remercier vos responsables. C'est une joie pour moi d'être au milieu de vous et de vous découvrir, et aussi bien sûr une grande joie pour moi de revoir le pasteur Lucien Clerc, qui a été mon pasteur, avec lequel je me suis converti il y a plus de 40 ans et qui m'a baptisé. Voilà, alors c'est une joie de revoir des frères qui ont été fidèles dans la foi jusqu'à ce jour. Alors ce matin, on m'a demandé de vous parler d'un sujet difficile. L'identité de l'Église. C'est un sujet qui demanderait des heures et des heures pour le traiter d'une manière exhaustive. Alors on va être obligé de le survoler rapidement. Et pour cela, je vous propose de faire deux lectures. Une première dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 11. Éphésiens, chapitre 2 et verset 11. Paul s'adresse donc à ses croyants d'origine païenne, ce qui est, je pense, le cas de la plupart d'entre nous, et nous dit ceci. Souvenez-vous donc de ceci autrefois, vous païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair par la main des hommes. Vous étiez dans ce temps-là sans Messie, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances, de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans Dieu, en grec, ça se dit athéoi, athée. C'est très intéressant, hein, cette parole aussi de Paul. Mais maintenant, dans le Messie Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Messie. Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a, dans sa chair, annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau, en faisant la paix, pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps par la croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Voilà, nous allons nous arrêter là pour cette lecture et nous lisons un court passage maintenant dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 11, tiré de ces trois grands chapitres où Paul traite de la question d'Israël, et pour notre propos de ce matin, il nous faudrait nous arrêter sur pratiquement chacun des versets de ces trois chapitres, mais bien sûr, notre temps ne nous permet pas. Alors, nous garderons simplement ce verset 25 du chapitre 11, qui nous dit ceci. « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sage. Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. » Et là, il y a un mot très important tout de suite, le mot mystère. Quand nous traitons de la question d'Israël, nous touchons à un mystère. Alors, peut-être qu'avant d'aller plus loin, une question qui se pose, qu'est-ce qu'un mystère ? au sens biblique du terme, bien sûr. En fait, peu de gens sont conscients justement de la signification exacte de ce mot, parce que nous sommes souvent coupés justement de nos racines juives. Et il faut savoir que Paul, lui, s'adressait, comme il le dira dans l'Épître aux Romains, à des gens qui connaissent la Torah. Je parle, dit-il, à ces païens de Rome, comme à des gens qui connaissent la Torah, et qui, eux, comprenaient ce qui est devenu pour nous étranger. Parce que nous allons voir tout à l'heure, à partir de notre première lecture, bien souvent nous sommes devenus des étrangers par rapport au peuple d'Israël, ce qui est une anomalie. Mystère, c'est un mot technique de la manière d'interpréter l'écriture chez les rabbins jusqu'à nos jours. Selon les rabbins, chaque texte de l'écriture à quatre interprétations possibles qui forment en hébreu le mot pardès, qui signifie le paradis. Et ça veut dire que si l'on interprète l'écriture au travers de ces quatre aspects, il y a quatre lettres au mot pardès qui sont les quatre voies de l'interprétation de l'écriture, on peut accéder au paradis. La première de ces lettres du mot pardès, P, ça nous donne en hébreu pshat. Le mot, ou plutôt le sens évident, simple du terme. Si l'on prend le premier verset de la Bible, par exemple, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est le pshat. C'est clair, n'importe qui est capable de comprendre ça. Mais quand on a dit ça, on a simplement fait qu'effleurer le texte. Alors il y a un deuxième mode d'interprétation, c'est le mot « remez », la deuxième lettre du mot « pardès », « remez ». Alors, les sages vont s'intéresser, par exemple, à la question de savoir pourquoi ce premier verset de la Bible commence par la deuxième lettre de l'alphabet, et non pas par la première, qui a pour une signification numérique 2. Parce que notre texte nous dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça veut dire qu'il crée deux choses. Et il y a, on pourrait parler des heures et des heures sur ce verset, le ciel et la terre. Pourquoi le ciel et la terre? Bon, je ne vais pas entrer là-dedans parce que ce serait une prédication en soi. Mais pour vous dire que là, il y a un deuxième sens. Troisième sens, on appelle drash. Drash, ça veut dire creuser. Alors, il faut creuser en quelque sorte sous la compréhension du texte. Alors, on va dire, par exemple, pourquoi, si on veut décomposer le mot Bereshit au commencement, on trouve deux mots. Le mot Roche et le mot Yahir. Roche, ça veut dire la tête, le chef. Ça veut dire que dans la création de Dieu, il y a une tête, il y a un chef. Et les rabbins ont dit, on peut conduire par la tête. Ça veut dire par le Messie. Le chef de la création, c'est le Messie. Et vous retrouvez ça chez Paul dans l'Épître aux Colossiens, qui connaissait cette exégèse, bien sûr. Il nous dit, toutes choses ont été créées pour lui et par lui. Il est la tête, dira l'apôtre Paul. Ça, il connaissait cette exégèse que tous les rabbins connaissent jusqu'à ce jour. C'est ce qu'on appelle le drash. Et puis la quatrième interprétation, et là nous arrivons au mot mystère, le sod. Alors le mystère, c'est l'interprétation la plus élevée d'écriture. Celle que l'homme, même avec sa sagesse, son intelligence la plus fine, ne peut pas discerner. Cette interprétation, elle est cachée dans l'Écriture, mais seul le Saint-Esprit peut la révéler à l'homme. Et alors, si on avait le temps, bien sûr, on pourrait prendre d'autres textes. Toujours dans l'Épître aux Éphésiens, où Paul traite d'un autre mystère que celui sur lequel nous allons nous pencher ce matin, bien qu'il soit proche et que finalement nous allons quand même en parler, le mystère de l'Église. Paul déclare ceci. En lisant les quelques mots que je vous ai écrits, vous pouvez vous rendre compte de la profondeur de la connaissance qui m'a été donnée à moi, Paul, qui suis le moindre de tous les saints. À moi, il m'a été donné de connaître les mystères cachés de tout temps et qui n'a été révélé que maintenant aux saints apôtres et prophètes du Messie. Voilà ça. Il nous donne ici la définition de ce qu'est le mystère. Le mystère, c'est une réalité qui se trouve dans l'Écriture, mais que l'homme livré à sa propre sagesse, à sa propre connaissance, ne peut pas discerner sans une révélation du Saint-Esprit. Voilà. Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. Par conséquent, le mystère d'Israël, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas comprendre par lui-même, s'il n'y a pas une révélation du Saint-Esprit. Et vous pouvez constater que les hommes et les femmes de notre temps heurtent et trébuchent devant ce mystère. Les journalistes, les hommes politiques, qui essayent de résoudre ce problème du Moyen-Orient et qui n'y parviennent pas parce qu'il leur manque la compréhension du mystère d'Israël. Alors, il y a plusieurs mystères qui sont dévoilés dans l'Écriture. Nous parlons du mystère d'Israël, mais il y en a d'autres. J'évoquais brièvement tout à l'heure le mystère de l'Église. Paul nous parle aussi du mystère de l'iniquité. Il nous dit ça dans 2 Thessaloniciens 2. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il y a quelque chose et quelqu'un de mystérieux qui le retienne, qui retienne l'apparition, la manifestation complète et entière de ce mystère de l'iniquité, mais qui sera pleinement révélé au temps de la fin, dit l'apôtre Paul. Et puis Jésus parlera à ses disciples des mystères du royaume de Dieu. À vous, dira Jésus, parlant à ses apôtres, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, tandis qu'à eux, la foule qui écoute ces paraboles et qui ne les comprend pas, il ne leur a pas été donné ces choses. Alors, ici, il y a deux mystères sur lesquels nous allons nous arrêter, le mystère d'Israël et le mystère de l'Église. Car tous les deux sont des mystères, et le mystère de l'Église aussi. Et le mystère de l'Église, il est profond. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans les Églises aujourd'hui. C'est pourquoi les Églises sont divisées. Parce que justement, on n'a pas véritablement saisi la portée du mystère de l'Église. Et on n'a pas saisi la portée du mystère de l'Église parce qu'on n'a pas saisi la portée du mystère d'Israël. Un exégète a dit une parole très importante et très belle. Il a dit ceci, ce n'est que lorsque l'Église se penche sur le mystère d'Israël qu'elle est capable de comprendre son propre mystère. Et ça, voyez-vous, c'est une clé essentielle. Et justement, Paul nous dit, un mystère, c'est quelque chose que l'on peut ignorer. Et il nous dit, je ne veux pas, frère, que vous ignoriez. Et là, nous touchons à un autre point extrêmement important, la question de l'ignorance vis-à-vis d'Israël. Comment pouvons-nous penser, espérer, comprendre le mystère d'Israël si nous ignorons tout d'Israël, du peuple juif et du judaïsme? Je vais maintenant revenir à notre premier texte où Paul nous dit une chose très intéressante. À deux reprises, dans Éphésiens 2, nous avons lu tout à l'heure, il nous dit « Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes, alors on traduit un mot grec sur lequel je reviendrai tout à l'heure pour l'expliquer un peu plus longuement, en grec ça se dit « politeia », alors on traduit par « concitoyens des saints », « politeoi » en grec. Bon, qui sont les saints? Quand nous parlons de saints, nous imaginons toujours l'idée d'une perfection morale. Ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas le premier sens du mot. On a chanté tout à l'heure le mot kadosh. Hein, kadosh, kadosh, c'est tiré du livre du prophète Ésaïe, chapitre 6, n'est-ce pas? Saint, saint, saint est l'éternel. Saint, kadosh, ça veut dire, dans un premier sens, mis à part, séparé. Et dans la mesure où quelqu'un est séparé, mis à part pour être consacré à Dieu, mis au service de Dieu, bien sûr, ça implique aussi une perfection morale. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Et la Bible nous dit, il y a un peuple mis à part. Que Dieu a choisi souverainement dans sa propre initiative pour le mettre à part de tous les peuples et pour en faire un peuple qui serait à son service et qui serait au service de toutes les nations. C'est le peuple d'Israël. Et quand Paul ici nous dit, vous êtes concitoyens des saints, il nous dit ici, vous êtes en quelque sorte concitoyens du peuple d'Israël. C'est ça que ça veut dire. Les saints ici, même si effectivement, ceux que Paul ici désigne comme saints ne sont pas saints au sens moral du terme, ne sont pas, n'ont pas la perfection morale, loin s'en faut. Mais il n'en demeure pas moins le peuple saint, c'est-à-dire le peuple mis à part, et que Dieu justement sanctifiera aussi au dernier jour. Alors ici, Paul nous dit une chose très importante. Il nous dit, vous n'êtes plus étrangers à ce peuple. Autrefois, oui, vous l'étiez. Et Paul, dans ce premier chapitre, ce chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens, nous décrit un avant et un après. Avant, alors on va reprendre le texte, hein, non seulement vous étiez incirconcis, mais vous étiez sans Messie, privé de la politéia en Israël. On a le même mot ici, du droit de cité en Israël. Étranger aux alliances, à la promesse, sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant en Jésus, le Messie, vous avez été rapprochés. Et vous êtes, par rapport à ce peuple des saints, ce peuple choisi, vous êtes dans une relation unique et nouvelle. Ce peuple n'est plus pour vous un peuple étranger. En tant que chrétien né de nouveau, racheté par le sang du Seigneur, vous avez une relation privilégiée, unique, avec le peuple d'Israël que vous n'avez avec aucun autre peuple. Et ce peuple ne doit pas être pour vous un peuple étranger. Voilà ici ce qu'on peut déduire de cette lecture de ce texte de l'apôtre Paul. Et on pourrait dire à la limite, vous n'avez pas le droit d'ignorer ce peuple. Voilà ce que le Seigneur, par l'inspiration du Saint-Esprit, nous dit. Maintenant, quelle est la réalité des églises et des chrétiens dans ce domaine? Je prendrai deux exemples pour montrer que cette ignorance que Paul ne voulait pas, mais que Paul avait envisagé comme une possibilité. Je ne veux pas que vous ignoriez ce peuple. Alors, deux exemples. Il y a quelques années de cela, j'embarquais à l'aérodrome d'Orly à destination d'Israël avec la compagnie El Al, compagnie nationale israélienne. Vous savez, depuis les attentats qui ont eu lieu, il y a des fouilles extrêmement sévères quand on embarque sur El Al. Alors il y avait une employée qui m'interrogeait d'où je venais, pourquoi j'allais en Israël, où j'allais, qu'est-ce que j'allais faire là-bas, etc. Tout un questionnaire. Et puis à un moment, il me dit, mais quelle est votre profession? Ah, je dis, je suis pasteur. Pasteur? C'est quoi ça, pasteur? Alors, j'essayais de trouver quelque chose qu'elle aurait pu comprendre. Ben, je lui dis, c'est comme un rabbin protestant. Elle dit, protestant? Vous êtes protestant? Je dis, oui. Ah, vous êtes donc catholique? Bon, je n'ai pas insisté, je n'allais pas lui faire un cours sur l'histoire de la réforme parce que j'aurais loupé mon avion. Alors je lui ai simplement dit, bon, ben, écoutez, si c'est ça, à ça que vous faites allusion, je suis chrétien. Ah bon, d'accord, ça va. Bon, m'a laissé passer. J'ai vu cette ignorance crasse. Et c'est pas simplement, je pourrais vous citer de nombreux exemples comme ça. Le peuple d'Israël ignore pratiquement tout du christianisme. Le peuple d'Israël ignore pratiquement tout de Jésus. Et maintenant, cette ignorance qui nous fait un peu sourire, mais elle est réciproque. Quel est le chrétien qui connaît le peuple d'Israël? Quel est le chrétien qui sait comment se déroule un service dans la synagogue, par exemple? Or, comme nous lisons le livre des Actes, chapitre 15, il y a, vous savez, cette fameuse, ce qu'on appelle le Conseil de Jérusalem, les catholiques appellent ça le Concile de Jérusalem, où l'on décide justement d'accepter les païens dans la politéia d'Israël, ça je vais revenir dans un instant. Et Jacques déclare ceci, quand il dit qu'il ne faut pas imposer aux païens les ordonnances juives, la circoncision, etc. Il dit « Car Moïse a des gens qui le prêchent aujourd'hui dans chaque ville. » Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit en gros ceci aux apôtres. « C'est pas la peine que nous perdions notre temps, nous, à enseigner la Torah aux païens qui se convertissent à Jésus-Christ. » Ça, ils ont qu'à aller dans la synagogue. Là, ils entendront parler de la Torah. Et tout à l'heure, je faisais allusion à ce texte où Paul déclare aux chrétiens de Rome « Je parle comme à des gens qui connaissent la Torah. » Où pensez-vous que ces gens-là avaient-ils appris la Torah, ces chrétiens de Rome? Évidemment, dans la synagogue. Alors, ne me faites pas dire ce que je veux. Je ne vous dis pas. Je ne dis pas qu'il faut aller à la synagogue chaque samedi. Ce n'est pas la question. Mais enfin, voyez-vous, il y a une méconnaissance. Et là, je prendrai mon deuxième exemple, ma deuxième anecdote. Il y a quelques mois de cela, je m'entretenais avec un médecin chrétien évangélique, un homme qui avait des responsabilités d'ancien dans son église, un homme bien, chrétien fidèle. Et nous entretenions de ce mystère d'Israël. Et à un moment, il m'a interrompu, il dit, mais une chose que je ne comprends pas. Pourquoi vous vous intéressez comme ça à Israël? Qu'est-ce qu'on a à faire, nous, chrétiens d'Israël? Et un autre me disait, dans le même ordre d'idée, parce que l'Ancien Testament, mot que je n'emploie pas, c'est Israël, et le Nouveau Testament, c'est l'Église. Et mais vous n'avez pas lu votre Nouveau Testament. Il est question d'Israël à chaque page. Il est question du peuple juif à chaque page. Mais finalement, le fait que le peuple d'Israël, le peuple juif, occupe une telle place dans le Nouveau Testament, n'apparaît même plus aux yeux des chrétiens et ne les interpelle pas. Comment se fait-il que même dans le Nouveau Testament, le peuple d'Israël occupe une telle place? Ça devrait quand même nous intriguer, cette question. On est tellement habitué à faire une certaine lecture de l'Écriture qu'on ne prend même plus cela en compte. Alors, ce faisant, on tombe dans l'ornière que Paul dénonce. Je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère. Nous ignorons un mystère. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, un mystère essentiel. Parce que justement, Paul nous dit dans le chapitre 11 de l'Épître aux Romains, il nous dit ceci, le peuple d'Israël, ce sont les racines qui te portent. Et si tu n'es plus greffé sur cette racine, sur cet olivier, eh bien tu es comme une fleur coupée. La fleur coupée peut être très belle. Prenez une rose et vous la coupez. C'est magnifique. voyez aucune différence quand elle a été coupée entre l'avant et l'après. Alors vous allez la mettre dans un vase avec de l'eau pour la conserver quelque temps. Mais vous aurez beau faire, à partir du moment où elle est coupée de sa racine, cette fleur, elle va s'étioler, elle va se faner, elle va disparaître. Et c'est ce qui s'est produit pour l'Église des Nations. Depuis le deuxième siècle, ça date, voyez-vous. Je pourrais vous faire toute l'histoire de la séparation. Ce serait trop long, ce serait une conférence en soi. Ce serait très intéressant, mais ce serait trop long. Eh bien, depuis le deuxième siècle, le christianisme des païens, le christianisme, notre christianisme, a été coupé de ses racines, pour toutes sortes de raisons, de ses racines juives. Et s'est étiolé. Alors au XVIe siècle, il y a eu une tentative de revenir aux racines, ça a été le mouvement de la réforme. Mais il s'est arrêté au milieu du gué. Et quand justement ce médecin me disait, mais pourquoi vous intéressez-vous à Israël? Je disais, parce que je suis descendant de Huguenots. Et le mouvement de la réforme, c'était un retour aux racines, un retour aux sources. Et quand je me suis converti, je me suis rendu compte que nos racines, comme le disait aussi le psalmiste, quand il parle de tel peuple, on peut dire, dans telle nation il est né. Mais de tous les peuples, on dit, c'est là qu'il s'en est, à Jérusalem, à Sion. Car ceux qui chantent et ceux qui dansent disent, toutes mes sources sont en toi. Et par conséquent, revenir aux sources, être des bons fils et filles de la réforme, c'est revenir à Jérusalem, c'est revenir à Sion, c'est revenir aux sources. Alors, justement ici, il y a ce mystère, cette ignorance dont nous parlions tout à l'heure, et cette ignorance qui a été voulue, entretenue. Et l'Évangile, bien souvent, nous est arrivé par une culture, par le biais d'une culture gréco-latine, voyez-vous. Et c'est ça aussi qui a provoqué toute une déformation que nous connaissons aujourd'hui dans notre christianisme. Alors, il y a aussi un autre point sur lequel j'aimerais m'arrêter. Maintenant, nous allons essayer justement de revenir sur cette articulation, sur ce mystère. Il y a parfois des frères et sœurs qui m'invitent, comme pour ce matin, et qui me posent comme question, ils me disent... Il faudrait que vous nous parliez de Israël et l'Église. Alors, déjà, ça c'est quelque chose qui me chagrine un peu, cette manière de poser le problème. C'est mal poser le problème. Parce que voyez-vous, on considère Israël et l'Église comme deux entités différentes, voire opposées. Alors que si vous relisez justement l'Épître aux Éphésiens, notamment qui est l'Épître de l'Église, vous voyez que l'Église c'est quoi ? C'est l'union dans un seul corps des Juifs qui ont cru en Jésus et des païens qui ont cru en Jésus. L'Église, ça n'est pas quelque chose non plus qui est étranger à Israël, mais c'est quelque chose qui a une partie intégrante, qui est partie intégrante de l'histoire d'Israël. Et alors il y a cette idée que l'on peut être, qu'on ne peut pas être juif et chrétien, on est l'un ou l'autre. Bon, ça je ne développe pas. Maintenant, il y a un autre excès, voyez-vous, tout ici est en nuance. C'est pour faire très attention dans toutes ces choses. Vous avez d'autres chrétiens qui découvrent justement ces racines, comme nous disions tout à l'heure. Et puis alors qu'ils eux pressentent qu'il y a là quelque chose d'important. Et puis, alors, vont maintenant dire, eh bien, maintenant que j'ai découvert cette dimension, je suis juif de cœur. Alors ils vont prendre des textes comme Romains 2, où il est question de la véritable circoncision, qui n'est plus la circoncision de la chair, mais la circoncision du cœur. Paul dit ça à des juifs, il ne dit pas ça à des païens. Si vous replacez ça dans son contexte. Et c'est pourquoi je veux revenir maintenant sur ce mot que nous avons trouvé à deux reprises dans notre texte des Éphésiens, le mot « politéia ». Vous n'êtes plus des étrangers. Autrefois, vous étiez privés, alors on traduit, du droit de cité. Or, effectivement, ce mot politéia ou politéoi, c'est un mot très difficile à traduire dans notre langue française, parce que nous n'avons pas de mot équivalent à cela, à ce mot grec. Et c'est pourquoi on traduit par des expressions qui ne veulent pas dire grand-chose, finalement. Gens du dehors, droit de cité, etc., ça veut dire quoi, ça? Mais si nous étions anglophones, ce serait beaucoup plus facile à comprendre. Et les versions anglaises de la Bible, en langue anglaise, traduisent cette expression par un mot qui n'existe malheureusement pas dans notre langue française, qui est le mot « commonwealth ». Commonwealth, ça veut dire littéralement « richesse commune ». Commonwealth, en anglais, c'est une expression qui a un caractère politique. On parle du Commonwealth britannique. C'est-à-dire, toutes les anciennes colonies blanches de la Grande-Bretagne ont été associées à la nation mère, si vous voulez, dans une relation d'égalité. Elles ne sont plus des colonies, ça veut dire des territoires qui sont administrés comme si c'était des gens primitifs, mais ils sont à égalité par rapport à la mère patrie. Alors, ils ont avec la mère patrie des richesses communes. Une langue commune, la langue anglaise, une culture commune, des institutions démocratiques communes, etc. Donc il y a tout un ensemble de richesses communes qui sont le partage de ces différents peuples, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Et pourtant, chaque nation garde son individualité. Un Canadien, ce n'est pas un Anglais. Un Australien, ce n'est pas un Canadien. Et si le gouvernement canadien prend des décisions dans un certain domaine, ça ne s'applique pas en Australie, ni a fortiori à Londres. Ça. Or, Paul emploie exactement ce mot pour désigner ce que sont les relations entre les chrétiens non-juifs, qui sont dans l'Église, et les chrétiens juifs. Nous sommes dans le même Commonwealth. Ça veut dire que nous avons les mêmes richesses communes. Et ces richesses, il les énumère. Maintenant, nous ne sommes plus, nous, les païens, étrangers aux alliances. Nous ne sommes plus étrangers à la promesse. Nous ne sommes plus sans espérance. Nous ne sommes plus sans Messie. Toutes ces choses qui étaient l'apanage d'Israël, elles sont maintenant à notre disposition, exactement comme Israël. Et dans l'Église, il n'y a plus aucune différence, il n'y a plus aucune priorité. Nous sommes à égalité totale avec le peuple d'Israël. Ça, c'est la richesse qui nous est donnée. Mais, ceci dit, eh bien, de la même manière qu'un juif qui a cru en Jésus ne cesse pas d'être juif, de la même manière un chrétien, un païen qui devient chrétien ne devient pas pour autant un juif. Il reste ce qu'il est. Pas plus qu'un homme, quand il se convertit, devient une femme, ou une femme devient un homme quand elle se convertit, ou un esclave devenait libre à l'époque de Paul quand il devenait chrétien, ou vice-versa. Mais pourtant, eh bien, il y a une réalité qui transcende cette appartenance ethnique, de sexe ou de conditions sociales, n'est-ce pas? C'est justement cette appartenance au Messie. Vous êtes dans la même politéia. Maintenant, il y a un autre point, alors là, beaucoup plus difficile à comprendre. Alors, il faudrait revenir sur ce texte de Romains 11, où Paul nous parle de ce mystère, nous dit... Quand il nous parle de cet olivier d'Israël, il nous dit « Vous ne deveniez pas présomptueux. Vous ne deveniez pas orgueilleux vis-à-vis d'Israël. » Or, ça, c'est quelque chose aussi que Paul avait bien vu, ce danger. Et nous étions en Israël avec notre sœur Fabienne il y a quelque temps. Il y avait un juif orthodoxe, religieux, qui intervenait, un homme ouvert, juif bien sûr, c'est évident. Et quand il a terminé son exposé, quelques pasteurs qui étaient là ont tenu absolument à lui faire sentir combien le christianisme était supérieur au judaïsme. Et combien les chrétiens, nous, en quelque sorte, il disait, vous les juifs, vous êtes encore à l'état de l'enfance. Nous, nous sommes maintenant des hommes adultes. Gentil pour celui, cet ami qui était venu, n'est-ce pas? Bon. Ben, c'est exactement ce que Paul dit, il ne faut pas faire. Ne soyez pas présomptueux vis-à-vis du peuple d'Israël. Parce que c'est là que nous touchons au cœur du mystère d'Israël. Et nous pourrions facilement, dit l'apôtre Paul, développer à la fois un sentiment de supériorité vis-à-vis d'Israël, mais aussi un sentiment d'hostilité. Pourquoi? D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit dans l'histoire, hein. Ça, c'est évident. Or, pourquoi? Pourquoi cette hostilité du chrétien d'origine païenne vis-à-vis du juif? Pourquoi? Eh bien, Paul nous le dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 11. Il nous dit, à cause de l'Évangile, ils sont ennemis. Mais à cause de leur Père, ils sont aimés. Et là, nous touchons à un paradoxe, un de ces nombreux paradoxes. Ça veut dire deux vérités qui semblent contradictoires, mais qui finalement ne le sont pas. Et ça aussi, c'est le cœur du mystère. Paul nous dit, par rapport à vous, païens d'origine non-juive, le peuple d'Israël est dans une situation paradoxale. Il est à la fois votre ennemi et votre ami. Parce que finalement, quel est le problème que Paul développe dans ces trois chapitres de l'Épître aux Romains? C'est la question que le païen d'origine non-juive va se poser tout naturellement. Le peuple d'Israël est le peuple par lequel nous est venu l'Évangile, nous l'avons lu tout à l'heure. C'est le peuple par lequel nous est parvenu le salut, par lequel nous est parvenu l'écriture, par lequel nous est parvenue toute la connaissance que nous avons. Nous lui devons tout. Mais comment se fait-il que ce peuple qui a été le canal de la bénédiction de Dieu pour nous est resté en dehors de son propre héritage et n'a pas reconnu son Messie? Voilà le gros problème. On touche ici au cœur du mystère d'Israël. Premier paradoxe. Dieu nous a fait connaître son salut par Jésus à nous païens, par l'intermédiaire du peuple d'Israël, et ce peuple d'Israël, dans sa grande majorité, continue à rejeter son Messie jusqu'à nos jours. Paul, comment tu nous expliques ça? C'est pas logique. Bon, c'est pour ça que Paul répond à cette question. Et il nous dit justement, oui, ce peuple, il est dans une position paradoxale, ennemi et ami. Ennemi pourquoi? Eh bien, parce que nous avons connu le salut par Jésus, le Messie d'Israël. On a fêté Noël il y a quelque temps. Dimanche dernier, c'était ça, l'épiphanie, le souvenir d'adoration des mages. Les mages, c'était des païens. Les premiers païens qui ont reconnu en Jésus le Messie. Et ils sont venus, ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Le roi des Juifs, c'était aussi l'inscription qu'il y avait sur la croix, en trois langues, en hébreu, en grec et en latin. Ça veut dire dans toutes les langues de l'univers connu d'alors. Ça veut dire que toutes les nations doivent savoir que Jésus est le Messie d'Israël. Il est le roi des Juifs. Alors, ça veut dire qu'on ne peut être sauvé païen que dans la mesure où l'on a reconnu que Jésus est le roi des Juifs. Et quand nous, païens, nous disons Jésus-Christ, on ne sait pas ce qu'on dit en général. Les gens de la rue, vous demandez Jésus-Christ, oh, ils ont tous entendu parler. Jésus, c'est son prénom, Christ, c'est son patronyme, comme moi je m'appelle Jean-Marc et mon patronyme, c'est Aubois. Quand nous disons Jésus-Christ, nous disons Jésus le Messie. Et nous disons Jésus est le Messie d'Israël, voilà ce que nous disons. Ben, c'est justement ça qui est discutable, qui est discuté en tout cas par les Juifs. Parce que quand nous disons Jésus-Christ à un Juif, ça veut dire que quand nous lui disons Jésus est le Messie d'Israël, il nous dit non, Jésus n'est pas le Messie d'Israël. Et quand un Juif nous dit Jésus n'est pas le Messie, eh bien il nous dit beaucoup plus et nous le sentons confusément. Si Jésus-Christ n'est pas le Messie, toi païen, tu n'es pas sauvé. Toi païen, tu n'es rien. Toi païen, tu te retrouves dans la situation que Paul décrit ici, sans espérance, sans Dieu, sans Messie, sans étranger aux alliances, étranger à tout. Tu es perdu, tu es encore dans tes péchés. Ça veut dire que quand le Juif me dit « Jésus n'est pas le Messie », il me dit « Toi, païen, tu n'es rien, tu es perdu ». Il touche à ce qui est essentiel pour moi, ce qui est essentiel dans ma foi chrétienne. Et ma réaction est immédiatement une réaction de défense et une réaction d'hostilité. Et il faut que ce Juif qui me dit que Jésus n'est pas le Messie confesse le Messie pour que je sois tranquille, rassuré dans ma foi, dans ma certitude. C'est pourquoi on n'a pas hésité dans l'histoire de l'Église à obliger les Juifs à confesser Jésus sous la torture, sous la menace de mort. Parce qu'on ne peut pas supporter que le Juif dise « Jésus n'est pas le Messie ». Que des Zoulous nous disent « Jésus n'est pas le Messie ». Que des gens d'Asie nous disent « Jésus n'est pas le Messie ». Peu importe, c'est des païens. Mais qu'un Juif, le peuple choisi, le peuple de Dieu me dise « Jésus n'est pas le Messie », immédiatement il y a quelque chose d'hostile qui naît en moi contre le Juif. Instinctivement. Alors justement, face à cette affirmation de ce Juif qui me dit « Jésus n'est pas le Messie », je peux avoir deux réactions, dit l'apôtre Paul. Réaction d'hostilité, réaction d'orgueil. Alors Paul dit « Attention, oui, il est dans cette situation-là, il te conteste dans ce que ta foi de plus profond, mais n'oublie pas qu'il reste malgré tout aimé de Dieu à cause de leur Père, et qu'il est ami, et qu'un jour... » quelque chose changera. Parce que tu vois, dit l'apôtre Paul, cet endurcissement partiel d'Israël, il est voulu de Dieu. Et il entre mystérieusement dans le plan de Dieu. Tu ne comprends pas pourquoi ? Parce que si Dieu n'avait pas endurci volontairement son peuple, toi, païen, tu n'aurais pas cru, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Et l'endurcissement d'Israël, cette inimitié d'Israël, elle est voulue de Dieu pour ton bien. Et plutôt que d'en vouloir à Israël de son endurcissement, tu devrais bénir Dieu d'avoir permis l'endurcissement d'Israël. Parce que c'est l'endurcissement d'Israël qui te permet d'être ce que tu es. Mais cet endurcissement d'Israël, d'abord, il est partiel. Il y a toujours des Juifs qui ont cru en Jésus. À toutes les époques, à toutes les générations. Sinon, l'Église aurait cessé d'être l'Église. Et deuxièmement, elle est limitée dans le temps. Un jour viendra où tout Israël reconnaîtra Jésus. Et c'est pourquoi, dès à présent, tu peux considérer que ce Juif qui est en face de toi est en quelque sorte un frère en devenir. Un jour, eh bien, il en sera là où tu es. Et alors, à ce moment-là, eh bien, le mystère d'Israël et le mystère de l'Église seront pleinement manifestés, seront pleinement révélés. Parce que justement, il y a cette identité chrétienne qui est liée à ce peuple, qui est liée à ce mystère. Et à ce mystère, les deux mystères, celui de l'Église et celui d'Israël, ne sont pas pleinement manifestés, ne sont pas pleinement révélés encore. Mais quand viendra le Seigneur, quand viendra le Messie, ces deux mystères seront pleinement révélés, seront pleinement manifestés. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui sont encore voilées, qui sont encore cachées. Et ça, il faut l'accepter. Alors, je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la plénitude des païens soit entrée. Alors, tout Israël sera sauvé, nous dit l'apôtre Paul. Voilà ce mystère. Voilà ce mystère, c'est ce que nous avons essayé de le comprendre ce matin. Alors, en attendant, tu n'es plus étranger. Évidemment, si tu t'arrêtes sur le premier terme, ennemi, donc je me sépare. Mais si tu t'arrêtes sur le deuxième terme, ami, tu dois aller à sa rencontre. À la rencontre d'Israël, et c'est quelque chose aussi qui va être pour toi quelque chose qui va te ressourcer, quelque chose qui va te vivifier. Tu n'as pas le droit d'être étranger. Tu n'as pas le droit de considérer ce peuple comme un étranger. Tu n'as pas le droit de l'ignorer. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une question de folklore. Ce n'est pas parce que tu vas mettre une kippa, ce n'est pas parce que tu vas te mettre à danser la hora, que tu vas avoir tout compris du mystère d'Israël. Il n'est pas question non plus de revenir à l'église des apôtres ou à l'église dans sa judéité. Bon, la pratique de l'église ancienne a été très différente de la nôtre, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ce n'est pas ça que je plaide.
Un des martyrs de l'église ancienne, cet homme a été jeté aux bêtes à Rome. Il s'appelait Ignace d'Antioche. Il était devenu évêque de cette ville à peu près un siècle après Paul. Ignace d'Antioche était un homme qui mérite beaucoup de considération et de respect parce que c'était un martyr, encore une fois. Et ce que je vais dire n'a absolument pas pour but de le dénigrer en quoi que ce soit. Je ne sais pas si je serais capable de faire ce qu'il a fait sur le plan du martyr. Mais, Bible en main, je suis obligé de dire que son approche de l'écriture était erronée. Pour lui, son identité chrétienne, elle s'inscrivait dans une opposition à Israël, à une lecture anti-juive de ce qu'on commençait à appeler l'Ancien Testament à cette période-là et du Hémen du Nouveau Testament. Et finalement, dans l'Église, depuis Ignace d'Antioche, dans l'Église des païens, on a continué à faire une lecture anti-juive de la Bible, jusqu'à nos jours. Une lecture où les juifs sont considérés comme les assassins du Christ, où les juifs sont considérés comme légalistes, s'attachant à une Torah qui est dépassée, que Jésus a abolie, etc. Et qu'on continue aujourd'hui, même dans nos églises évangéliques, à faire cette lecture de l'Écriture. On ne se rend pas compte que ce faisant, on est dans le courant d'une tradition anti-biblique qui a son origine au IIe siècle avec cet Ignace d'Antioche, qui se continue ensuite par Justin Martyr, qui continue ensuite par Chrysostome, par Ambroise de Milan, par Saint Augustin, etc. Ça, je pourrais vous faire tout le cheminement, mais ce serait trop long. Et puis un deuxième homme, un homme de la Bible cette fois-ci, c'est Luc. Luc, le seul auteur non-juif de la Bible, le seul. Et moi j'ai beaucoup d'admiration, j'ai beaucoup d'affection pour Luc. Parce que vous avez chez Luc un respect, une admiration pour le peuple d'Israël qui me remplit toujours de stupéfaction. Luc, qui nous dira par exemple que Élisabeth et Zacharie, les parents de Jean, respectaient d'une manière irréprochable tous les commandements de Dieu. Vous êtes déjà arrêté sur ce texte? Les parents de Jésus montaient tous les ans à Jérusalem pour célébrer la fête de Pâques. Ah bah oui, ils montaient tous les ans à la fête, pourquoi pas? Ben non, justement, c'est pas évident. Parce que le voyage à Jérusalem tous les ans, ça coûtait très cher pour des gens pauvres comme ils l'étaient. Et c'était très rare que des gens de Galilée montent à Jérusalem tous les ans. Ils allaient en général tous les 3-4 ans. Et ça voulait dire que les parents de Jésus étaient des gens qui étaient extrêmement respectueux de la Torah. Je pourrais multiplier les exemples où Luc, justement, nous dira de Paul, par exemple. On voit Paul devant Agrippa ou devant Félix. Et il dit, c'est à cause de l'espérance d'Israël que je suis mis au jugement devant toi. Comment vous semble-t-il étonnant que Dieu ressuscite les morts? Il faut savoir qu'au centre de l'espérance d'Israël, il y a celle de la résurrection des morts. Et pour Paul, comme il le déclare, selon ce que Luc nous rapporte, ce que nous appellerions son christianisme était parfaitement cohérent avec la foi d'Israël. Il ne s'inscrivait pas en rupture avec la foi d'Israël, mais dans sa continuité. Et quand il déclare à Rome, il arrive à Rome, c'était ça notre sœur hier, il dit ceci aux juifs qui sont venus discuter avec lui à Rome, les juifs de Rome, il dit, je n'ai jamais eu un seul instant l'intention d'accuser ceux de ma nation. Et ensuite, il nous est dit, les juifs se séparèrent discutant entre eux. C'est comme ça que se termine le livre des Actes. Je pourrais vous parler longtemps de cette finale du livre des Actes, elle est un chef-d'œuvre littéraire. Ça veut dire le débat, Jésus est-il ou non le Messie, dure encore. Et il durera jusqu'à la fin, jusqu'à la venue du Seigneur. Alors on a deux approches possibles de la Bible. Et c'est pour ça, c'est à cela que je voudrais vous ramener ce soir. Je ne plaide pas ici encore une fois pour qu'on folklorise. Je ne plaide pas non plus pour que l'on judaïse, encore moins. Je ne vais pas vous demander ni de respecter le Shabbat, ni de respecter les fêtes, ni de choses comme ça. Non. Ce que je dis, c'est qu'il y a deux approches possibles de l'écriture. Ou une lecture ignatienne de l'écriture. Ça veut dire anti-juive, une identité chrétienne qui est une identité d'opposition. Je suis chrétien parce que je m'oppose aux juifs, parce que j'ai une opposition théologique, pas antisémite. Vous avez des gens qui ne sont pas antisémites, mais leur théologie est anti-juive, comme l'était celle d'Ignace. Il disait, si nous gardons quelque chose du judaïsme, nous trahissons le Christ. Voilà ce qu'écrivait en Ignace d'Antioche. Alors on a cette lecture ignatienne de l'écriture. Je voudrais simplement plaider ce soir pour un retour à une lecture lucanienne de l'Écriture. Lire l'Écriture comme Luc le faisait. Il ne s'agit pas de dire que tout est beau en Israël. Il ne s'agit pas de dire que les Juifs sont parfaits. Non, ce n'est pas vrai. Luc ne le disait pas. Et dans le livre des Actes, il a dit, oui, vous avez livré ce Jésus aux païens pour qu'il soit crucifié. Il le dit. Mais c'était une controverse interne au judaïsme, vous voyez? Et c'est devenu ensuite un motif d'accusation pour l'ensemble du peuple. Comme disait un petit garçon juif qui était rentré de l'école à 8 ans, il avait eu une querelle avec un de ses camarades, et il rentre à son papa et dit, « Papa, c'est vrai que nous les juifs, on a crucifié Jésus ? » C'est ce qu'on lui avait accusé de faire, voyez-vous? Ça, c'est une lecture ignatienne de l'Écriture. Ou alors une lecture lucanienne qui est favorable à Israël, qui est positive, parce que justement ce sont nos racines, parce que ce n'est pas un peuple étranger, ce sont tes frères. Tu peux avoir des querelles avec tes frères, mais c'est rester frère quand même. Tu n'as pas le droit de les haïr, tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur. Vous n'êtes plus des étrangers, des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints, dans la même politéga, dans le même Commonwealth, gens de la maison de Dieu. Alors, c'est aussi ce commandement qui a été donné dans les 10 paroles, tu honoreras ton père et ta mère. Et les rabbins ont interprété ça, disant, tu honoreras tes racines. Alors, honorer ton père et ta mère, tu n'as pas le droit de mépriser. Tu dois rester le spectateur muet, et rempli de crainte de ce procès que Dieu a avec son peuple et duquel tu n'as pas à te mêler, toi, païen. Et à ce moment-là, eh bien, tu pourras provoquer la jalousie d'Israël. Une dernière anecdote, et j'en aurai fini. J'ai d'excellents amis dans le nord d'Israël, ce sont des Allemands non-juifs qui, après la guerre, ont voulu essayer de réparer autant que faire se peut les crimes du peuple allemand vis-à-vis d'Israël. Et ce sont des gens qui ont un tel témoignage depuis la fin de la guerre qu'ils sont connus dans tout le pays. Ce sont des gens, ils reçoivent gratuitement les rescapés de la Shoah pour un temps de repos, de vacances, gratuitement. Et puis ensuite, aussi, les personnes âgées, ils ont un hôpital gratuit pour eux, tout est gratuit. Et là, ils expliquent, ils rendent témoignage avec beaucoup de sagesse de Jésus. Et une de ces femmes, rescapée de la Shoah, est venue passer un temps dans cette maison. C'était une femme religieuse, elle est allée voir son rabbin. Et elle lui a expliqué ce qui lui était arrivé. Et elle a dit à cet homme, ce rabbin lui dit, j'ai une question à vous poser. Est-ce que Dieu peut exaucer les prières des goyim, des non-juifs? Et le rabbin lui répond, non, c'est pas possible. Cette femme s'est mise à rire et dit, allez donc voir là-bas les Allemands et vous verrez comment Dieu les bénit et comment Dieu répond à leurs prières. Exciter la jalousie d'Israël dans le bon sens, en les aimant tellement, malgré tout, malgré le fossé des siècles, comme le font ces gens gratuitement, que finalement ils diront, mais pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui est là? Quel est finalement ce que vous avez? C'est nous, c'est à nous, c'est notre héritage, c'est notre possession. Vous savez, depuis 2000 ans, jamais les Juifs n'ont vu la figure de leur Messie dans l'Église. C'est ça le drame. Il est temps que ça change. Vous n'êtes plus des étrangers. Alors aujourd'hui, prenons la décision de ne plus être étrangers, de considérer ce peuple comme celui de nos frères, comme celui que nous sommes appelés à rencontrer un jour dans l'éternité, quand le Seigneur reviendra. Et que finalement il réconciliera juifs et non-juifs dans cette éternité, comme nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, où les 144 000, ça veut dire la plénitude d'Israël qui s'est tournée vers Jésus, que Paul a annoncé, est liée à cette foule nombreuse de tous ces païens qui sont venus de toute nation, de toute langue, de toute tribu, et qui sont associés à la louange d'Israël, comme Paul l'a dit, chapitre 15. Louez le nation avec son peuple. Prions maintenant. Notre Dieu, tu as voulu essayer de nous ouvrir ce matin quelque chose de ce mystère d'Israël, qui est en même temps le propre mystère de notre appel à nous païens dans ton Église. Seigneur, tu ne veux pas que nous ignorions ce mystère, et nous voulons d'abord te demander pardon de l'avoir ignoré pendant si longtemps, nous et nos pères. D'avoir voulu ne rien savoir de ce mystère, par présomption, par orgueil, par mépris, comme l'avait annoncé ton serviteur Paul. Et nous disons, Seigneur, comme le disait Daniel, nous et nos pères, nous avons péché. Et en ce temps, Seigneur, nous voulons revenir vers nos racines. Nous voulons honorer notre père et notre mère, comme tu l'enseignes dans ces 10 paroles. Nous voulons à nouveau, Seigneur, non plus considérer ce peuple comme ennemi, mais comme ami à cause de leurs pères, qui sont aussi nos pères. Tu nous rappelles par la bouche de Paul que nos pères ont été sous la nuée, c'est aussi nos pères. Alors, Seigneur, nous voulons réaliser que fils d'un même père, de même père, nous sommes frères. Seigneur notre Dieu, permets que tu puisses nous donner par ton esprit un autre regard sur ce peuple, un autre regard sur ta parole, un autre regard sur leur histoire et sur notre histoire, et un autre regard, Seigneur, aussi sur ce que tu es en train de faire. Seigneur, permets aussi que nous puissions avoir une telle attitude que nous puissions, Seigneur, être aussi des sources d'interpellation pour ce peuple, et que, comme le dit l'apôtre Paul, nous puissions exciter sa jalousie jusqu'au moment, Seigneur, où tu permettras cette illumination de ton peuple que nous attendons et pour laquelle aussi nous te prions, en te disant hâte ces choses, Seigneur, mais en attendant, Seigneur, nous ne voulons plus que ce peuple soit un peuple étranger. Seigneur, nous voulons le reconnaître comme notre peuple et dire avec Ruth, et non pas avec Orpa, parce que ton Dieu est mon Dieu, alors ton peuple sera mon peuple. Au nom de Jésus. Amen.